Merci à vous.
Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français. Entretien avec Arnaud Pontus à réécouter, à retrouver sur notre site www.rfi.fr ou bien sur notre application Pure Radio. Vous restez avec nous sur RFI à suivre l'actualité africaine.
Les subsahariens victimes de la politique européenne d'immigration.
Carrefour du Maghreb avec Julia Trangeval.
Ces dernières années, l'Europe a déplacé le centre de gravité de sa politique migratoire à l'extérieur de ses frontières. Avec quelles conséquences ? Exemple en Tunisie et en Libye.
Carrefour du Maghreb avec Julia Trangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.
L'histoire que je vais vous raconter a changé notre vie. Quand je dis notre vie, je parle de la mienne et celle de mes amis. Mais d'abord et avant tout, la vie d'un chanteur burkinabé déshérité, un peu trop porté sur la bouteille et qui dormait dans la rue quand tout a commencé, au début des années 2000. Cet artiste, il s'appelait Victor Démé.
Retrouvez le podcast « Notre incroyable histoire avec Victor Démé » raconté par David Comeyas sur RFI.fr et l'application RFI Pure Radio.
RFI, 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal avec Édouard Dupénoit.
Et un palmarès somptueux malgré une dernière désillusion. Cette édition qui commence par les mots de Walid Regragui, désormais ex-entraîneur de la sélection nationale marocaine. À 3 mois du mondial, il laisse sa place sur le banc des Lions de l'Atlas. Le procureur de Cancan en Guinée qui annonce une enquête après de nouveaux enlèvements des proches d'un ancien ministre et conseiller d'Alpha Condé kidnappé à domicile.
Grand invité Afrique de RFI après ce journal, Abdoul Sako est le coordonnateur du Forum des Forces Sociales en Guinée. Entretien dans une dizaine de minutes.
Avant cela, et dans cette édition, une attaque revendiquée par le GNIM dans l'extrême nord-est du Bénin, aux confins avec le Niger. 15 soldats béninois ont été tués. L'armée engage une riposte aérienne. Le Sénégal et la chasse aux agences jugées budgétivores lancées par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui espère économiser plusieurs dizaines de milliards de francs CFA ces prochaines années. Et le dossier de cette édition, comment les États-Unis remodèlent complètement leur business de la santé sur le continent, comment ce nouveau schéma crée des craintes et des suspicions.
Walid Regragui n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale marocaine de football.
Après plusieurs semaines de rumeurs et d'atermoiements, il a donc annoncé hier soir officiellement qu'il raccrochait les gants. Walid Regragui, c'est un homme à qui les Lions de l'Atlas doivent une demi-finale historique à la dernière Coupe du Monde, une 8e place au classement FIFA, une série record de victoires aussi pour une sélection nationale. Et certes, une défaite cruelle face au Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 mois. La roue tourne, dit le désormais ex-entraîneur.
Dans le football de haut niveau, il existe des cycles. Alors il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre, mais voilà, il y a des moments où la dynamique a besoin de nouveaux visages, d'une énergie différente, bien sûr, et d'un nouveau regard pour un nouveau sélectionneur. C'est pour ça qu'après avoir analysé cette situation, avec lucidité, puisque j'ai pris quand même un certain temps, je pense sincèrement que l'équipe avait besoin d'un nouveau souffle avant la Coupe du Monde, d'une nouvelle vision pour continuer à progresser et atteindre les objectifs ambitieux de notre nation. Aujourd'hui, ma décision de partir s'inscrit dans une logique d'évolution de cette équipe. Cette décision n'est pas un renoncement, au contraire, mais un choix réfléchi. Je quitte mes fonctions avec loyauté, avec gratitude et avec fierté d'avoir servi mon pays. Le Maroc ne doute plus. Le Maroc s'est installé au sommet africain et parmi les grandes nations mondiales.
Walid Regragui qui laisse sa place sur le banc à Mohamed Ouarpi, qui n'est pas tout à fait un novice, puisqu'il a emmené ses U20 sur le toit du monde il y a moins d'un an. Que pense-t-on à chaud de ce changement dans le vestiaire ? Reportage RFI Mathias Reynal.
Les avis sont unanimes. Chez les Marocains, Regragui déclenche un double effet. Il y a d'abord les compliments.
C'était un bon entraîneur. Son palmarès parle de lui. Il est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde.
Et pourtant, Aziz, 60 ans, n'est pas déçu de le voir quitter la sélection marocaine.
Mais maintenant, il faut un changement. Regragui ne change pas de méthode de jeu. Il joue toujours défensif. Et cette Coupe d'Afrique, il n'a rien fait. Il a gardé les mêmes joueurs, des joueurs qui n'ont pas leur place.
critiqué, sifflé, même pendant la dernière CAN, lors de la phase de groupe qui avait été très poussive pour le Maroc, Mustapha, 41 ans, se réjouit de l'arrivée du nouveau sélectionneur, Mohamed Wahbi.
Je pense que Wahbi est la personne idéale pour reprendre l'équipe nationale. C'est un bon tacticien capable de s'adapter à chaque match.
Vainqueur en octobre de la Coupe du Monde du vin avec le Royaume, 40 millions de Marocains rêvent désormais de le voir soulever le trophée doré dans 3 mois en Amérique. Mathias Reynal, Casablanca.
L'actualité du foot encore et la CAF qui annonce, ça y est, officiellement le report de la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se tiendra finalement entre les 25 juillet et 16 août prochains et qui se déroulera bien au Maroc. Antoine Grenier en parle ce matin dans ses journaux des sports. Prochaine édition complète dans un peu plus d'une heure.
RFI à Conakry. 89.9 FM.
La Guinée où la justice annonce une enquête après de nouveaux enlèvements.
Oui, c'est le procureur de Cancan, précisément, qui ouvre effectivement une procédure judiciaire. Alors que selon nos informations, la mère et la sœur de Thibou Camara, ancien ministre conseiller d'Alpha Condé, ont été enlevés il y a de cela 3 jours à leur domicile de Dinguiraï. Une enquête, mais qui peine à convaincre notamment les organisations de défense des droits humains. Précision, explication, Guillaume Thibault.
C'est en fin de matinée ce jeudi que le procureur général de la cour d'appel de Cancan a convoqué la presse. Sans citer Thibou Camara, sans citer les victimes, Marouane Baldé a évoqué les enlèvements de 3 personnes. Alors que 2 membres de la famille ont été enlevés selon nos informations, le procureur général a promis une enquête impartiale.
Les auteurs de ces faits demeurent à ce stade non identifiés. Le parquet général rassure les familles concernées que tout sera mis en œuvre pour faire la lumière sur cette affaire et que les suspects répondront de leurs actes conformément à la loi.
Dans la foulée de cette déclaration, les organisations de défense des droits de l'homme ont publié un long communiqué dans lequel elles rappellent notamment que les enlèvements se poursuivent et que les enquêtes ouvertes dans le passé n'ont pas abouti. Maître Alpha Amadou Desba est vice-président de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme.
Je suis entièrement consterné. Quand il est question d'une vieille femme de 90 ans avec sa fille, je pense qu'on a dépassé toutes les limites. Nous espérons seulement que cette fois-ci, que les enquêtes vont aboutir. Et ensuite, nous demandons que ces personnes-là soient libérées.
Joint par RFI, un membre de la famille de Thibou Camara indique « Nous n'avons aucune nouvelle des 2 femmes enlevées. Nous espérons que cette enquête ouverte par le procureur n'est pas de la poudre aux yeux. »
Guillaume Thibault, lui, a été kidnappé, torturé, abandonné l'année dernière. Il se soigne aujourd'hui en exil. Abdoul Sakho coordonne toujours malgré tout le Forum des Forces Sociales de Guinée. Il est le grand invité Afrique de la matinale de RFI. Au micro de Sidi Yansané dans un entretien que vous pouvez écouter dans une dizaine de minutes après ce journal, quand vous le voulez aussi sur notre application Pure Radio ou sur notre site rfi.fr. Pour l'heure, il est 6h36 à Conakry, 7h36 à Cotonou. Le Bénin, où une attaque revendiquée par le JNIM touche une localité près de la frontière avec le Niger, la localité de Kofonou, près de Karimama, dans l'extrême nord-est du pays. L'attaque s'est produite avant-hier. 15 militaires sont morts, 5 autres ont été blessés et les forces armées béninoises ont donc lancé une riposte aérienne. Jean-Luc Aplogan est notre correspondant à Cotonou.
À plus de 750 km au nord de Cotonou, dans la commune de Karimama, zone frontalière avec le Niger, une position des forces armées béninoises a été prise pour cible par des hommes armés. L'armée a officiellement reconnu la mort de 15 militaires et 5 blessés dont le pronostic vital n'est pas engagé selon son porte-parole. Ce n'est pas la première fois que cette zone est frappée. Karimama et ses environs ont déjà été le théâtre d'incidents sécuritaires par le passé. Face à l'attaque, un aéronef militaire a été engagé en riposte et a intercepté une colonne d'assaillants motorisés. L'intervention aérienne a neutralisé 4 terroristes et détruit plusieurs motos, le mode de déplacement privilégié des combattants. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM a revendiqué l'attaque, affirmant dans un communiqué contrôler la position visée, une version fermement démentie par les autorités militaires béninoises. « Ils ne contrôlent rien du tout », a déclaré un haut gradé contacté par RFI. Les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone. Le niveau d'alerte a été relevé sur l'ensemble des positions de l'armée béninoise dans la région. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
La Libye affirme avoir identifié 3 suspects dans l'affaire de l'assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi. L'enquête qui a été ouverte après le meurtre a pu déterminer le lieu de rencontre de ces suspects, l'heure à laquelle ils se seraient rendus sur les lieux du crime et à laquelle ils ont commis leur forfait ainsi que leur identité. C'est ce que dit en tout cas le parquet dans un communiqué diffusé notamment sur les réseaux sociaux, communiqué qui précise que l'arrestation de ces trois personnes a été ordonnée.
La marine sénégalaise annonce avoir secouru 139 personnes dans une pirogue à la dérive.
Selon l'institution, l'embarcation avait quitté auparavant les côtes gambiennes, chargée donc de candidats à l'exil via la route migratoire de l'Atlantique. La dépouille d'un nouveau-né a aussi été retrouvée dans cette embarcation. Tous les occupants ont été débarqués dans une base navale de Dakar. Le Sénégal et l'opération dégraissage qui se précise. Le Premier ministre annonce la prochaine suppression de 19 agences publiques jugées budgétivores. Ousmane Sonko table sur 55 milliards de francs CFA d'économies d'ici 2029, quasiment 84 millions d'euros. Alors pourquoi supprimer ces agences? Quel avenir pour celles et ceux qui y travaillent? Début de réponse avec notre envoyée spéciale permanente, Léa-Lisa Westerhoff.
Pour le groupe de travail chargé de dégraisser les dépenses de l'État, ces 19 agences publiques avaient des missions trop proches. Les supprimer devrait permettre d'économiser un peu moins des 28 milliards de francs CFA environ qu'elles mobilisaient chaque année. Reste à savoir ce que vont devenir les 982 agents qui travaillaient pour ces organes. Mercredi, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, a promis qu'un comité pilotera le redéploiement de ces agents. Il ne serait donc pas question de licenciement. Au final, les autorités promettent une économie de 55 milliards de francs CFA sur 3 ans. Une somme assez modeste quand on sait que le déficit budgétaire se chiffre à environ 1245 milliards de francs CFA. Ces suppressions d'agences seront-elles vraiment exécutées? S'interroge déjà un acteur économique sous couvert d'anonymat, sachant que les organes visés n'ont pas été publiquement listés. Par ailleurs, les effectifs de la fonction publique ont continué à augmenter depuis que le PASTEF est arrivé au pouvoir. Plus de 8000 fonctionnaires ont été recrutés en un an, selon des données publiées par la Direction de la prévision et des études économiques. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Le Sénégal, enfin, où les autorités espèrent bien clore définitivement la polémique Softcare. Ces suspicions de matières premières périmées qui auraient été employées dans la fabrication de couches pour bébés ou de protection hygiénique. Aucune matière première périmée n'a été utilisée, assure le ministre de la Santé Ibrahim Assi. Il s'appuie sur les conclusions du comité chargé d'étudier ce dossier. 2 morts, 4 personnes blessées dans le crash d'un avion militaire hier en Algérie. L'appareil s'est écrasé après son décollage de la base aérienne de Boufarik, avec à son bord 6 membres d'équipage. C'est en tout cas ce qu'indique le ministère algérien de la Défense, qui précise qu'une enquête a été ouverte. En avril 2018, déjà, un avion de l'armée algérienne s'était écrasé peu après son décollage de cette même base, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. Pire catastrophe aérienne de l'histoire du pays.
Le dossier de ce journal illustre les nouvelles méthodes de l'administration américaine. Tout est bon pour faire du business.
On se plonge en effet dans ce grand chambardement en matière de santé que vous entendez régulièrement évoquer sur nos antennes. Les États-Unis ont remplacé leur contribution à divers programmes mondiaux par des partenariats directs qui mêlent les États et des entreprises de santé privées. Pour paraphraser grossièrement ce deal, il faut signer des contrats pour continuer à recevoir, par exemple, des traitements préventifs contre le VIH ou bien des vaccins. C'est vous qui vous y plongez, Claire Bargelès, qui est concernée à l'heure actuelle.
Les États-Unis ont déjà signé de tels accords bilatéraux sur 5 ans avec une 20aine de pays africains, dont encore tout récemment la Guinée, le Burkina Faso, le Niger et la RDC. Selon Washington, l'objectif est, à long terme, de réduire la dépendance à l'aide internationale et les États concernés s'engagent à cofinancer les programmes, par exemple de lutte contre le paludisme, le VIH ou la mortalité maternelle et infantile. Les clauses et les montants varient selon les négociations qui ont été menées, mais dans l'ensemble, il existe assez peu de transparence, notamment ce qui concerne le partage de données de santé qui peuvent donner un avantage aux Américains en matière de surveillance sanitaire. C'est ce qui a poussé le Zimbabwe à refuser de signer un tel accord, jugé asymétrique par le porte-parole du gouvernement. La Zambie demande, elle, une renégociation alors que certains éléments semblent indiquer que des contreparties seraient demandées dans le secteur minier. Quant au Kenya, c'est la justice qui a bloqué temporairement l'application du texte signé afin de vérifier qu'il respecte les lois locales.
Le problème de ces contrats, chaque fois différents, signés au cas par cas, c'est que la santé des populations peut devenir un levier de négociation pour ceux qui tiennent les cordons de la bourse. Une variable d'ajustement particulièrement cynique que dénonce notamment Asia Russell. Elle est directrice de l'organisation Health Gap, organisation qui lutte pour un accès équitable au traitement préventif contre le VIH.
Ces accords bilatéraux sont bien différents de la façon dont le programme PEPFAR fonctionnait. Il était basé sur des preuves scientifiques en toute transparence, avec des gouvernements nationaux qui échangeaient avec les porteurs du VIH et le gouvernement américain afin d'évaluer la progression des programmes et déterminer où les milliards de dollars devaient être investis, dans quelles cliniques et quelles zones. Lorsque la santé devient un simple outil de négociation pour une administration rapace qui veut en échange exploiter les ressources souveraines comme les minerais, cela peut conduire à des résultats désastreux. Les programmes peuvent ne pas répondre aux besoins des personnes qui risquent de mourir si elles n'ont pas accès au traitement ou à des moyens efficaces de prévention.
Aja Russell, directrice de l'organisation Health Gap, dans un dossier signé de Claire Bargelès. À 7h44, ici à Paris, pour la suite de RFI Matin avec Marion Cazanov.
Et c'était le journal d'Edouard Dupénoit. Radio France Internationale, il est 6h44 en temps universel. La revue de presse africaine avec vous, Catherine Potet, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
À la une, la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies.
Pour ou contre Macky Sall à la tête de l'ONU, c'est la question que pose Sénégo, selon lequel la candidature de l'ancien président sénégalais suscite un vif débat au sein de l'opinion sénégalaise. En l'espace de quelques jours, explique le site d'information, deux pétitions aux positions diamétralement opposées ont été lancées, illustrant la polarisation autour de cette ambition internationale. La première pétition, initiée par Mariama Dieng, députée suppléante de la diaspora, appelle les États membres et le Conseil de sécurité de l'ONU à rejeter la candidature de l'ancien chef de l'État, dans un texte évoquant notamment le bilan controversé de son dernier mandat, marqué selon les initiateurs par des atteintes aux libertés. La seconde pétition, lancée deux jours plus tard, poursuit Sénégo, appelle au contraire les Sénégalais et les Africains à soutenir Macky Sall, considérant que son élection constituerait une opportunité pour renforcer la voix de l'Afrique dans la gouvernance mondiale. Deux pétitions donc, des initiatives citoyennes, ajoute le site d'information sénégalais, qui ont mobilisé plusieurs dizaines de milliers de signataires en quelques jours.
Le débat est vif également sur la manière dont la candidature de Macky Sall a été annoncée.
Confidentiel Afrique présente l'information comme exclusive. Comment, nous dit le journal numérique panafricain, comment le Burundi a porté la candidature de Macky Sall à l'ONU en laissant croire à un soutien de l'Union africaine. Confidentiel Afrique met en avant les confidences sous anonymat d'un diplomate africain basé à Addis Abeba, selon lequel le Burundi a joué sur l'ambiguïté. En tant que président de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye a présenté la candidature comme si elle venait de toute l'Afrique, mais en réalité, poursuit le journal en ligne, aucun vote ni consensus n'a été obtenu. Quel est le but du Burundi dans cette affaire? Projeter Macky Sall comme candidat africain unique, renforçant l'image d'un continent uni, créer un effet d'annonce à l'international en donnant l'impression que l'Union africaine avait tranché, explique Confidentiel Afrique, qui met en avant ce qu'il appelle un paradoxe saisissant. Le Sénégal n'a pas soutenu son ancien président.
Un paradoxe que souligne également le quotidien.
Soutien à la candidature de Macky, la solitude de Diomaye, titre le quotidien. Pour le journal sénégalais, le silence prolongé du président de la République par rapport à la candidature de son prédécesseur à l'ONU risque de nuire à la longue au prestige diplomatique du Sénégal. Pour un pays dont les ressortissants sont habitués à occuper les fonctions les plus prestigieuses, ajoute le quotidien, voir notre ancien chef de l'État devoir faire présenter sa candidature par le Burundi ne nous grandit pas, et on doit dire que le duo à la tête de l'État ne nous rend pas service dans cette affaire. Du point de vue du journal sénégalais, il y avait d'autres voies à suivre, car nous dit-il, combien de fois n'a-t-on vu à travers le monde des dirigeants parrainer leurs compatriotes à l'international, même quand ces derniers étaient des des opposants à leur pouvoir.
À la une de la presse africaine également, Catherine, le départ officiel de Walid Regragui, ex-sélectionneur du Maroc.
C'est à la une d'Afrique Foot qui évoque des passations de pouvoir qui sont plus douces que les autres, notamment donc celle qui a eu lieu hier soir entre Walid Regragui et son successeur Mohamed Wahbi. Mohamed Wahbi qui a chaleureusement remercié Walid Regragui et envisage l'avenir avec optimisme. On a une équipe solide, estime le nouveau sélectionneur, en pleine progression, qui est encore fin et qui surtout n'a pas de complexe. Bref, le Maroc est confiant à 3 mois de la Coupe du Monde.
Catherine Potet pour la revue de presse. 6h48 en temps universel.
RFI, toute l'actualité, Marion Kazanov.
L'armée israélienne poursuit ses frappes contre l'Iran. Elle a annoncé hier une nouvelle phase dans sa guerre. De nouvelles explosions ont retenti cette nuit à Téhéran, dans plusieurs villes du pays également, à Shiraz, à Ispahan. L'armée israélienne a frappé aussi le sud du Liban et la banlieue sud de la capitale, Beyrouth, bastion du Hezbollah. On est en direct de Beyrouth dans le prochain journal. On appellera aussi dans 20 minutes la directrice du journal libanais L'Orient le Jour, Rima Abdulmalak, elle aussi à Beyrouth. L'Iran aussi continue de riposter. Les gardiens de la révolution ont dit avoir visé Tel Aviv. Les pays du Golfe aussi sont ciblés. Le Qatar et l'Arabie Saoudite disent avoir intercepté des attaques de drones ces dernières heures. 3 missiles ont été arrêtés au Bahreïn. Le Bahreïn précise aussi que 2 hôtels ont été touchés par des frappes iraniennes sans faire de victimes. Autre guerre dans l'actualité. Au Soudan, des affrontements dans le Kordofan, dans la ville de Diling, ont fait au moins 51 morts ces dernières 24 heures. Bilan donné par des sources médicales à l'AFP. Aux États-Unis, Donald Trump se sépare de la ministre de la Sécurité intérieure, Kristi Noem, l'une des figures de proue de la politique d'expulsion massive d'immigrés du président américain. Elle sera remplacée par le sénateur républicain Mark Wayne Mullin. Kristi Noem ne quitte pas l'administration Trump puisqu'elle se voit confier une mission d'émissaire spécial pour l'Amérique latine. Et puis c'est le coup d'envoi aujourd'hui à Vérone du début des Jeux paralympiques d'hiver, mais la cérémonie sera boycottée par plusieurs pays dont l'Ukraine car le comité international paralympique autorise le retour des athlètes russes et biélorusses, ce qui n'était pas le cas pour les JO le mois dernier. En Guinée, le procureur de Cancan a ouvert une enquête après l'enlèvement de la mère et de la sœur d'un ancien ministre en exil, Thibou Camara. C'était mardi dernier. Elles ont été kidnappées chez elles par des hommes cagoulés et en uniforme militaire. Désormais, dans le pays, les rapts visent les membres de la famille à défaut d'atteindre les opposants et militants en exil. Abdoul Sako est le coordonnateur national du Forum des forces sociales de Guinée. Lui-même a été kidnappé l'an dernier, torturé et abandonné dans la nature 3 jours plus tard. Il explique à Sidi Yansané que l'ensemble de la population est en sursis.
Bonjour Abdoul Sako.
Bonjour Yansané.
Il y a un peu plus de 2 semaines, vous avez pris la parole pour commémorer, disons ça comme ça, l'enlèvement que vous avez vous-même subi 1 an auparavant. Aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya est officiellement élu président. Abdoul Sako, comment vous décririez la situation en Guinée aujourd'hui ?
Je pense que c'est juste l'expression d'une tristesse qui dépasse les commentaires. Je suis aussi attristé par rapport à l'image sombre que cette situation renvoie de la Guinée. Ce peuple qui a pris avec maturité républicaine par le vote référendaire son indépendance autour des principes de liberté et de dignité voit aujourd'hui que la vie humaine est absolument insignifiante et que l'État n'a aucune possibilité de lui donner la sécurité à l'intérieur du pays sans pour autant donner aucune garantie en termes de justice. Ce qui m'attriste le plus, c'est le regret de constater que le peuple de Guinée n'a pas de partenaire, je veux parler de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la France, de l'Union européenne, avec lesquels il a un partage des valeurs et des vertus démocratiques. Seulement des partenaires qui s'accommodent à toutes les formes de violation des droits dans le seul but de se procurer des ressources du pays. C'est le coup d'État où des jeunes gens ont déclaré qu'ils veulent rectifier des erreurs qui ont été commises depuis l'indépendance. Cela a suscité de l'espoir. Au lieu de consolider les acquis démocratiques, de renforcer les dynamiques de réconciliation nationale, que cette gouvernance se transforme aujourd'hui en une forme d'aggravation des factures mémorielles. Là, ça a aussi une dimension attristante.
C'est suite au remaniement gouvernemental il y a 2 ans que la série de disparitions forcées a vraiment commencé. Désormais, on kidnappe les membres de la famille et même les enfants des citoyens en exil. Et quelle atmosphère règne actuellement au sein des populations guinéennes ?
Aucune quête catégories socio-professionnelles du pays ne trouvent être épargnées. Des vieillards ne sont pas épargnés. Des femmes, des enfants ne sont pas épargnés. Parfois, des gens qui ne demandent absolument rien à l'État sinon que d'être sécurisés, que ceux-ci aussi peuvent se coucher le soir avec la peur de ne pas se réveiller le matin ou sortir de la maison avec la peur de ne pas rentrer le soir sans être enlevé. Vous voyez davantage combien de fois la situation elle est alarmante. Qu'est-ce que ça ramène? Soit que nous sommes avec des dirigeants qui ne mesurent pas du tout les dégâts que cela ramène, aussi bien dans le présent, parce qu'aucun investisseur sérieux, ne serait-ce que pour leur sécurité, qui peut venir investir dans cette situation. Mais mieux encore, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Parce que ce qui ne peut jamais changer, ça c'est le changement. D'une manière ou de l'autre, qu'en soit aujourd'hui ou demain, le changement il interviendra. Aujourd'hui alors, vu que toutes les lignes rouges sont franchies, au lieu d'être guidé par la raison, cette hantise les ramène davantage dans le déni. Il suffit de voir aujourd'hui la précarité économique et financière dans laquelle le pays vit. Même si vous avez de l'argent dans le compte, vous ne pouvez pas y avoir accès. La paralysie totale au niveau du système bancaire.
De nombreuses sources indiquent à RFI qu'il y a de plus en plus de Guinéens qui fuient le pays, des entrepreneurs, des universitaires, magistrats, artistes et même des militaires. Et ceux qui restent disent avoir installé leur famille dans les pays voisins. Déjà, est-ce que vous constatez ce genre de phénomène?
Ce qu'il faut noter, plus les autres fuient, je veux dire ceux qui ne sont pas aux affaires, fuient, plus ceux qui gouvernent par l'incertitude de leur gestion font plus sortir leurs familles parce qu'eux, ils ont les moyens à leur disposition. Voilà le paradoxe. Le réflexe principal aujourd'hui, lorsque quelqu'un est ministre, directeur ou est accès à une dimension de responsabilité qui lui permet d'avoir de l'argent, c'est de faire sortir sa famille et de le mettre à l'abri.
Tout à l'heure, vous disiez que les partenaires de la Guinée s'accommodaient de ces violences. Vous mettiez ça sur le compte des ressources minières. Est-ce qu'il n'y a que cela, finalement, qui justifie ce silence assourdissant de toutes ces personnes?
Je vois aussi que le contexte mondial aujourd'hui qui met l'économie au centre et les autres aspects deviennent des accessoires. Mais je vais paraphraser simplement le président Macron qui disait dans le cadre de l'ayatollah Khamenei que l'histoire ne regrette jamais les dictateurs qui massacrent leur peuple. Je leur dis que les peuples n'oublieront jamais les partenaires qui sont accommodés à leur souffrance pendant qu'ils en avaient plus besoin d'eux.
Merci Abdou Sako.
À moi de vous remercier.
Abdoul Sako, coordinateur national du Forum des forces sociales de Guinée. Il répondait aux questions de Sidi Yansané. Comme chaque vendredi sur RFI, c'est la parlotte de Charlotte. Charlotte, vous nous dites ce matin que pour comprendre ce que veut la femme, il faut comprendre ce que veut Dieu.
Oui, ce que femme veut, Dieu le veut, ont-ils coutume de dire. Mais ce qu'on ne comprend pas, nous les femmes, c'est que ce sont les mêmes qui disent aussi ne pas comprendre la femme. Pour comprendre la femme, il suffit de comprendre qu'elle veut que tu comprennes ce qu'elle veut sans qu'elle le dise. Un peu comme Dieu qui n'a pas besoin de te dire à chaque instant ce qu'il veut. Chérie, pourquoi tu tires la bouche comme ça? C'est toujours pour ton anniversaire que j'ai oublié que tu es fâchée. Je vais me rattraper, mais prends d'abord 500 000. Tu vas t'acheter ce que tu veux. Ils disent ne pas comprendre la femme alors qu'il n'y a pas plus facile à comprendre qu'une femme. Man, je ne comprends pas les femmes. Comment tu dragues une go pendant des années? Elle repousse tes avances, mais le jour où elle te voit avec une autre fille, elle te regarde avec les mauvais yeux. Tu lui adresses la parole, elle te répond mal, comme si vous avez un problème. Moi, je ne la comprends plus.
Tu ne la comprends pas. Comment? C'est plutôt le sens du mot insister que toi, tu ne comprends pas. Pour s'attirer les faveurs de Dieu, il faut prier, le supplier à genoux, les mains jointes, ou le front contre le sol, méditer, jeûner et même intercéder. Et alors, comment peux-tu oublier ce que femme veut, Dieu le veut? Dieu dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu dois aimer ta conjointe comme toi-même. Il y a quoi de compliqué à comprendre là, gars?
Les femmes sont même comment? Je n'ai jamais vu une femme jalouse comme ma femme.
Et puis quoi? Dieu lui-même n'a-t-il pas dit qu'il est un Dieu jaloux? Si Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face, pourquoi toi tu veux avoir une autre femme derrière mon dos? Pour comprendre ce que veut la femme, il faut comprendre ce que veut Dieu. Et pour comprendre ce que la femme ne veut pas, il faut savoir ce que Dieu ne veut pas. Par exemple, le mensonge. N'est-ce pas, tu m'avais dit que tu n'étais plus en contact avec Marie-Louise? C'est qui la Marie-Lou que j'ai vue dans ton répertoire? Ceux qui connaissent quand même un peu la femme savent que, comme Dieu, la femme s'est pardonnée, à condition que tu saches reconnaître ta faute et promettre de ne plus pécher. Man, Si on t'a déjà attrapé, il faut seulement avouer comment de ses propres yeux, elle vous voit sortir de l'auberge. Tu dis que ce n'était pas toi, c'est Lia. Comme Dieu, si la femme le veut, elle peut vous faire vivre la promesse d'un paradis. Mais son châtiment peut aussi être terrible et vous faire vivre le déluge et même les flammes de l'enfer. Car ne l'oubliez jamais, ce que femme veut, Dieu le veut. À vendredi.
La parlotte de Charlotte, tous les vendredis sur RFI. À suivre dans 2 minutes, le journal de Gaëtan en plein air. On sera en direct de Beyrouth et de Jérusalem.
RFI, la sélection du mois.
Richard Bonnat. Moulinex ne peut pas marcher sans cola. Papa Razel. Pépi Chala Fia.
Ce vendredi, avec Arthur Bon à la réalisation, nous recevons Jonathan Gambella en conversation.